vous intéresser à l'histoire.
Archive. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Archive. Alors ce mois-ci, une petite découverte réalisée par Gilles Margeron que nous avons l'honneur d'accueillir encore une fois ce mois-ci dans Archive. Je te remercie Gilles pour cette participation.
C'est un plaisir.
C'est vraiment toi qui détiens les clés des mystères de ces bobines hein, qui traînent un peu partout. Tu nous as dégoté quelque chose de bien spécial ce mois-ci. Je te laisse nous expliquer un peu de quoi il s'agit.
Alors, il faut remettre dans le contexte, c'était un petit peu moins d'il y a 20 ans, hein, 19 ans et des boulettes. Et l'association Lagrange et Radio Sainte-Afrique organisaient l'Afrique à Sainte-Afrique, festival fantastique qui a duré 4 ans et malheureusement s'est interrompu par décision municipale de ne plus financer. Mais on ne va pas revenir là-dessus, on va rester positif. Et il y avait des conférences, il y avait des concerts, il y avait des expositions, un marché africain, enfin énormément de choses très très sympathiques. Et une conférencière appelée Claire Dufour avait été invitée pour témoigner de son expérience personnelle au Sénégal. Et donc dans cette première partie, qui est introduite d'ailleurs par Nicole, qui était notre rédac-chef de l'époque, un peu Claire Dufour essaye de lutter contre toutes les cartes postales, les a priori, tout ce qu'on a dans la tête par rapport à l'Afrique, qui n'est pas forcément la réalité.
Donc on s'apprête à écouter la première partie d'une émission réalisée en trois parties, qui va du coup axer un petit peu le sujet sur ce qui se passe dans un petit village au Sénégal, son expérience à elle là-bas.
Voilà, ce village s'appelle Bandia et c'est vraiment du vécu, mais ça remonte à 20 ans. Donc c'est assez intéressant de voir le décalage et finalement que les choses n'ont pas tant changé que ça.
À Bandia en 1996 donc.
Archive. C'est vrai qu'en Afrique c'est un phénomène qui existe malheureusement. Et pour les Africains, le fait que leurs enfants puissent se retrouver dans cette situation-là, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Parce que, comme on le sait, en Afrique, les enfants sont rois. Les mères donnent tout à leurs enfants. Donc si une mère africaine en arrive à devoir laisser son enfant dans la rue, c'est vraiment qu'il y a un problème grave. Ça prend ses sources dans des tas de... Je ne veux pas parler maintenant. Mais par contre, j'ai envie de parler d'un groupe que j'ai rencontré à Dakar, une association d'Africains. Et notamment, c'est un Camerounais qui a créé ce groupe. Et lui ne pouvait pas accepter cette situation-là. Alors, ce qu'il a fait simplement, c'est qu'il est allé frapper à toutes les portes des médecins, des magasins d'alimentation, des gens africains comme lui, en disant « c'est nos enfants qui sont dans la rue ». Et il faut arrêter d'attendre d'ailleurs, c'est nos enfants, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il a eu un écho. Et il a réussi à créer autour de lui toute une solidarité de ses frères africains pour les enfants africains, en disant on ne va pas s'arrêter là, ça c'est pour parer à l'urgence. Et à partir de là, bon, ça demande d'aller déranger les politiques, et c'était le moustique du gouvernement sénégalais. Il a réussi à déranger tout le monde, enfin il essaye de déranger tout le monde. Et une fois qu'il a commencé à être un peu connu, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est vraiment dans la rue, qui est sur le terrain, qui connaît bien le problème, il a commencé à être courtisé par des gens comme l'UNICEF par exemple. Et je vais donner deux exemples de ce qui s'est passé avec ce groupe. Le premier, donc, c'est l'UNICEF qui est venu dire « nous on est prêts à vous financer, ce que vous voulez, vous connaissez bien le problème, on veut travailler avec vous ». Au départ, bien sûr, il était ouvert. Et en fait, très vite, on s'est mis à lui poser des conditions, c'est-à-dire la création d'institutions pour enfants. Et lui a dit « je ne suis pas d'accord, c'est un groupe d'Africains qui a créé cette association pour nos enfants, et nous en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Les enfants, on ne va pas les parquer dans une institution, c'est comme si on allait les mettre en prison. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir rechercher les familles, chercher la famille élargie, le replacer dans une famille ». Que ce soit, même si ce n'est pas les parents qui ont fait l'enfant, ça n'a aucune importance. Alors il a dit, si vous voulez vraiment nous aider, aidez-nous à avoir des gens qui peuvent aller faire ce travail de chercher des familles, de discuter, et si possible des Africains. Il faut que ça se passe en langue nationale, etc. L'UNICEF a dit non. Il a dit, vous pouvez garder vos millions. Voilà, donc, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est la fondation Raoul Folro, comme on le sait, a énormément d'argent et qui jusque-là se consacrait à la lèpre. Et là aussi, il s'est fait courtiser. On lui a dit, voilà, on va organiser un grand séminaire pour tous les gens qui connaissent le problème des enfants de la rue, pour trouver des solutions à l'africaine. Évidemment, il y a pas mal de groupes qui se sont présentés pour participer à ce séminaire, dont Étienne Sauquin, qui est donc le président de ce groupement. Et on lui a demandé tout ce qu'il savait des enfants de la rue, tout ce qu'il savait des endroits où ils se trouvaient, comment ils vivaient, comment ils étaient organisés. On lui a demandé ce qu'il proposait, lui, comme solution. Donc il a serré le problème en disant « Les enfants qui n'ont pas encore passé 2 ans dans la rue, on peut faire ce travail de rechercher les familles. Au-delà de 2 ans, c'est foutu. En fait, ils se sont trop habitués à la vie de la rue, donc il faut trouver un intermédiaire. » Et il a proposé de faire des lieux de transit, donc qui ne sont pas du tout des institutions, des lieux où les jeunes enfants passent par là et apprennent quelque chose. Et une fois qu'ils ont quelque chose en main, ils peuvent aller retourner à la rue avec un petit métier, ce qui est déjà mieux que d'être à la rue sans rien. Donc il a tout donné, ses idées, sa connaissance du terrain. Et on lui avait promis que ce serait lui qui coordonnerait c'est lui qui mettrait ça en place. Et une fois qu'il a tout donné, en fait, les gens ont ramassé l'idée et ils vont créer ce qui ressemblera beaucoup plus à des institutions.
Claire, est-ce qu'on pourrait parler de l'école? Est-ce que dans les villages, justement, comment se passe le début de l'éducation et ce chemin
La première école, elle commence avant la scolarisation, dans la famille. Et j'ai beaucoup admiré l'éducation qui est donnée aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a... un certain nombre de valeurs qui sont respectées chez les adultes, le respect de la vie, le respect des parents qui vous ont donné la vie, le respect de la vieillesse, le respect des ancêtres. Il y a un certain nombre de valeurs qui sont bien ancrées encore chez les adultes. Et on sent que les parents, ils ont vraiment pour mission de transmettre ça à leurs enfants. Ils savent que c'est ça qui va faire que leurs enfants vont devenir des hommes, des adultes, des gens épanouis, équilibrés. Donc, ils ne vont pas transiger là-dessus. Alors c'est vrai qu'on dit, oh, mais en Afrique, ils battent les enfants, ils corrigent les enfants. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai jusqu'à l'âge où l'enfant, tant que l'enfant n'est pas capable de comprendre avec son intelligence, c'est vrai que s'il ne veut pas comprendre, on va le frapper. Ça, nous, ça nous choque, mais je pense que c'est plus franc et c'est certainement plus bénéfique pour les enfants, cette méthode-là, parce que petit à petit, ils comprennent ils savent de toute façon que c'est pour leur bien. Alors, bien sûr, il y a toujours des extrêmes, il y a toujours des cas particuliers où des parents vont trop loin, mais il y a toujours le groupe à ce moment-là pour protéger. Un enfant qui est trop battu ou injustement battu, les autres vont intervenir, vont discuter de ça avec les parents. Donc, je parle en général, c'est vrai que l'enfant, on sent une volonté de lui donner ces valeurs-là, pour son bien, pour qu'il grandisse. Jusque-là, tout va bien. Après, ce que j'ai observé, en tout cas au Sénégal, c'est comme ça, il y a la rupture de l'école. Et là, je trouve, de nouveau, je trouve que ça a quelque chose de choquant et de dramatique. Donc un enfant, par exemple, je reste à Bandia, les enfants jusqu'à 5-6 ans vivent cette éducation-là. À 6 ans, on les envoie à l'école, donc jusque-là, ils ont parlé sérère. Et un petit peu Wolof, parce qu'en général, comme le Wolof est la langue que tous les Sénégalais parlent, assez tôt les enfants l'apprennent. Tout à coup, ils se retrouvent à l'école, ils parlent le français. Donc ils commencent par ne rien comprendre, ils apprennent l'ABCD français. Enfin, on leur fait une, totale rupture dans leur culture. Ce qui est déjà... Enfin, j'imagine, si nous, on nous avait fait ça, tout à coup, on nous dit, maintenant, l'école, c'est en chinois à 6 ans. Je ne sais pas comment on s'en sortirait. Bon, ce qui est aussi difficile, c'est que c'est une école... Bon, je pense que ce n'est pas partout comme ça en Afrique, mais au Sénégal, en tout cas, l'école est restée très coloniale. Et moi, j'ai appris, en parlant justement avec les enfants, les méthodes scolaires, j'étais complètement ahurie. Alors, un des exemples qui paraît-il, date de la colonisation, ça s'appelle « prendre par quatre ». Donc, si un enfant ne sait pas sa leçon ou a mal récité... Quatre enfants doivent le prendre par les mains et par les pieds, et un autre enfant doit frapper avec un bâton. Voilà, ça, c'est des choses un peu héritées de la colonisation et qui se continuent. Alors, aussi, bon, déjà, les programmes scolaires, il y a un effort qui avait été fait pourtant pour améliorer les programmes scolaires, les africaniser au moins. Mais bon, c'est assez tombé en désuétude parce que ça fait partie des budgets qui ont été complètement sabrés au Sénégal en tout cas. Tout ce qui est pour la scolarité, c'est des tout petits budgets de rien du tout. Donc ils subissent cette rupture-là. Ils apprennent un peu à lire, un peu à écrire, un peu à compter jusqu'au niveau de la fin de l'école primaire. Et c'est pas une école intelligente. On voit pas ce que c'est en rupture avec ce qu'ils ont appris jusqu'à présent et on voit pas vraiment ce que ça leur apporte. Alors, je parle bien de Bandia parce que c'est vrai qu'il y a d'autres lieux en Afrique où l'école amène quand même un plus, amène une instruction à un enfant et lui sert de tremplin pour éventuellement après étudier, apprendre un métier. Là, dans un village complètement enclavé de brousse, j'ai vu que c'était pas ça qui se passait et que moi aussi, parce que les parents n'ont pas les moyens de permettre aux enfants d'aller plus loin après, d'aller au secondaire, ou d'apprendre un métier. Et ce qui fait que, ce qui est terrible, je trouve aussi, c'est qu'après, ils n'arrivent pas à rattraper cette éducation qui avait commencé, en fait. Parce que normalement, ce que me racontait Souké, parce que ça m'a beaucoup interrogée, tout ça, et je lui ai demandé de m'expliquer un peu pourquoi ça se passait comme
qui
ça.
Qui est Souké ?
Ah, Souké, pardon, c'est la présidente du groupement des femmes. Et elle me disait, c'est vrai que normalement, après cette éducation des petits, il y avait encore des tas de choses qu'on leur apprenait, des savoir-faire. Alors les petites filles apprennent quand même, elles apprennent à préparer à manger, elles apprennent à faire le feu, elles apprennent à puiser l'eau, elles apprennent à tenir une maison, elles apprennent quand même un certain nombre de choses. Mais pour les garçons, c'est différent. Il y a quelque chose qui se stoppe là et cette éducation qui était censée continuer, elle se perd par ce passage à l'école.
Et il n'y a pas une forme d'initiation, je veux dire, à la nature, aux animaux, aux plantes, ou apprendre peut-être les dangers et tout ça.
Ah oui, ça se fait de toute façon. Ça, c'est ce que je disais, cette éducation à la vie.
Mais ça se fait très très jeune.
Ah oui, cette éducation à la vie, elle continue, heureusement. Mais...
Parce que l'Afrique est dangereuse, il y a des pièges un petit peu partout, je veux dire, en brousse, il faut apprendre les animaux, les serpents, les insectes, les choses comme ça, non ?
Oui, mais on apprend aux enfants... c'est une éducation qui est adaptée. Mmh. C'est une éducation qui est tout à fait adaptée à leur environnement. Donc cette éducation-là, elle ne pose pas de problème. Elle est faite pour que l'enfant s'épanouisse et devienne adulte. Ce qui pose plus problème, c'est ce plus qu'il faudrait pouvoir donner pour que les jeunes apprennent quelque chose, puissent travailler comme tout un chacun. Et là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je pense que le principal problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le budget pour l'éducation est ridicule. Ils travaillent sans cahier, alors qu'il y aurait de quoi, là aussi, investir. Le gouvernement sénégalais a largement de quoi investir dans l'école. Donc c'est un choix politique aussi. Alors je ne vais pas repartir sur un grand débat, mais c'est un choix politique de ne pas privilégier l'éducation, cette éducation-là des enfants. Mais l'éducation de base, qui est la plus importante, celle-là, elle est assurée. Et c'est pour ça que je dis que j'ai plus foi en l'Afrique. C'est que c'est cette base-là qui est la plus importante. C'est cet apprentissage de la vie, du respect de la vie. Et sur cette base-là, ils vont traverser ça. Il y a un moment où certainement qu'ils retrouveront la capacité de faire en sorte que leurs enfants aient une instruction qui leur permette après de travailler.
C'est un instituteur à Bandia qui fait l'école. Oui. Vous avez pu le rencontrer, parler avec lui de ce genre de problème
ou... Oui, on a beaucoup discuté parce que j'essayais de comprendre et il m'a dit « Mais tu ne te rends pas compte, j'ai 100 enfants dans ma classe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 100 enfants ? J'ai pas de cahier. » Alors eux aussi, moi, je les ai trouvés, je les accuse de rien parce que chaque année, ils organisent une grande fête. Donc bénévolement, ils battent le tam-tam pour rameuter tout le monde. Et on reçoit une invitation avec une enveloppe et on met dans l'enveloppe ce qu'on peut. Le minimum, c'est 500 francs CFA. Et si on peut plus, évidemment, on met plus. Et on arrive à la fête en donnant son enveloppe. Et ça, c'est ce qui leur sert chaque année à acheter les fournitures scolaires pour l'école.
C'est une sorte de kermesse, en fait.
Oui, voilà. Mmh. Mais c'est scandaleux que ce soit les instituteurs qui doivent faire quelque chose comme ça, alors que les gouvernements ont largement de quoi financer des écoles. Mais il y a un choix de ne pas faire ça.
Mmh. Préfère acheter des armes, peut-être.
Oui, des armes, ou rester dans cette espèce de complicité avec les gouvernements européens, où il y a des accords, vous produisez ça, vous nous importez ça, puis vous nous rachetez ça. Enfin, tout se passe au-dessus de la tête des gens, et à l'intérieur du pays, alors qu'il y a tout en Afrique. Ils ont besoin de personne, il y a tout. Il suffirait d'investir et de développer. Et il y a en plus les gens qui sont capables de faire ça. Et au niveau de la scolarité des enfants, c'est pareil. Il y a des gens hyper compétents pour créer des écoles, pour former des jeunes à des métiers. Là aussi, de l'agriculteur à l'informaticien. Mais on ne permet pas ça.
Est-ce qu'il n'y a pas un projet, parce que les femmes doivent y penser à ça.
Bien sûr.
Un projet d'école peut-être un peu plus...
Elles en sont loin quand même, parce que pour l'instant, elles résolvent des problèmes du quotidien. Et avant de penser à l'école, il y a la nourriture. Donc c'est...
La survie d'abord.
Voilà, elles en sont au stade d'améliorer la survie. Alors peut-être que si elles arrivent à organiser ça, elles vont... D'ailleurs, dans leur projet, elles veulent s'alphabétiser pour pouvoir aussi aider leurs enfants à suivre à l'école. Enfin, mais c'est du long terme tout ça. Et puis, bon, elles ont le courage de le faire, et c'est certainement un espoir pour l'Afrique.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller?
Ouais.
Ok, d'accord.
Oui, bien sûr.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville.
C'était donc la première partie d'une série de trois petits formats, un reportage réalisé en 96 à Bandia, au Sénégal. Et tout de suite, donc, je te rends la parole, Gilles, pour nous expliquer un peu quelle est la suite de cette émission.
Alors, petit village très typique, on va dire, c'est les cases en banco, avec les toits en paille, etc. Là, on est dans la carte postale, mais en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est de voir le quotidien des femmes, notamment. Et Claire Dufour s'est attachée à cette bande de femmes qui sont organisées vraiment en tontine et tout ça. Et on voit la survie autour de la céréale Le Mil et de la corvée d'eau. Et donc, ces femmes se constituent en groupe et vont aller même voir les banques et s'organiser. Et on voit qu'en Afrique, eh bien, s'il y a un peu d'espoir, ça passera par les femmes.
Déjà à l'époque.
Il est au sud de Dakar, à 60 km, et loin de la mer. Enfin, c'est pourtant seulement à 30 km, mais quand il n'y a pas d'eau, ça fait très loin de l'eau, très loin de la mer. C'est leur problème numéro un, l'eau, parce qu'il ne pleut pas assez. Donc les cultures sont souvent mal arrosées, donc les récoltes ne sont pas très bonnes. Et puis pour le quotidien, quoi. Ils ont un puits qui creuse chaque année un petit peu plus. Là, ils en sont à 30 mètres. C'est une eau qui est sablonneuse, qu'ils n'ont pas en suffisance en plus. Donc c'est vraiment un gros problème, l'eau. Il se trouve que malheureusement, ils n'ont aucune chance de faire partir du plan du ministère de l'hydraulique. Donc un forage pour le village, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter dessus.
C'est impensable.
À moins de trouver eux par leurs propres moyens, un financement, ils ne l'auront jamais, ça ils le savent.
Mmh. Et ils produisent quoi? Ils cultivent en autosuffisance, je veux dire, ou ils arrivent à produire pour vendre au marché un peu plus loin?
Ils cultivent le mil. Alors, dans les bonnes saisons, ils arrivent à faire la soudure, comme ils disent. Donc, ça, c'est pour eux. Ils arrivent juste à garder ce qu'il faut pour faire la soudure, c'est-à-dire c'est la période avant les pluies, hein, jusqu'à ce que les pluies reviennent et les prochaines récoltes. Et souvent, ils n'en ont pas assez. C'est un peu comme partout en Afrique, on leur dicte ce qu'ils doivent produire et en quelle quantité, on ramasse le quota, et puis le reste, ils ont très peu d'autonomie par rapport à leur production.
Ils font un peu d'élevage à côté
Très peu, à cause du manque d'eau, Alors bon, ils ont toujours ce qu'ils appellent leurs animaux de case, quelques moutons, une chèvre par-ci, par-là, mais il n'y a pas suffisamment d'eau, donc pas suffisamment de pâturage pour faire un vrai élevage. Il y a les Peuls, hein, qui sont donc les nomades,
les bergers,
et qui continuent à sillonner le pays, qu'on voit comme ça en pleine brousse. On se demande d'ailleurs ce que mangent leurs animaux, mais ils sont encore là, oui.
Et donc, ils font de l'artisanat, probablement.
Particulièrement les femmes aimeraient bien avoir des activités annexes. Et leur problème, justement, c'est qu'elles sont prises la plupart du temps par la corvée d'eau. Et là-bas, ça représente des heures et des heures d'attente, déjà pour que la nappe fasse remonter l'eau. Donc des heures de corvée d'eau, des heures pour aller chercher des fagots de bois dans la brousse. Puis là, il faut y aller de plus en plus loin. Et des heures de pilage du mil. Donc une fois qu'elles... Plus les enfants, plus les tâches ménagères. Donc une fois qu'elles ont fait tout ça, il n'y a plus de temps, en fait, pour faire autre chose. C'est à ce moment-là que je les ai rencontrées. Cette femme qui s'appelle Souket Yandoum, donc qui est la présidente du groupement des femmes, a décidé un jour que ce n'était pas possible de continuer comme ça, que de toute façon personne ne viendrait les aider, personne ne penserait à elle, donc il fallait qu'elle se débrouille toute seule. Bon, ça c'est un mouvement qui est assez général en Afrique maintenant, hein. C'est ces femmes qui tout à coup décident qu'elles vont se mettre ensemble et essayer de faire quelque chose. Alors il y a celles qui passent par les ONG ou qui sont contactées par les organisations gouvernementales, mais il y a beaucoup de groupements qui se créent comme ça, de manière totalement autonome et par elles-mêmes. Et là, c'est ce qu'elles ont fait. Alors leur idée, ça a été de proposer un service de pilage du mil aux villages avoisinants. Alors c'est rien que l'idée en soi est extraordinaire quand on sait les heures qu'elles passent déjà, elles, pour toutes leurs tâches ménagères. Et elles ont été 80. Elles se sont constituées un groupe de 80, toutes les femmes mariées et mères d'enfants. Donc c'était la tranche d'âge entre 25 et 35-40 ans. Et elle faisait les villages avoisinants en proposant de piler le mil des femmes. Et elle se faisait payer 10 francs CFA le kilo pilé. Donc 10 francs CFA, c'est 1 franc français. Et au moment où je les ai découvertes, ça faisait une année qu'elles faisaient ça, elles avaient réuni 1500 francs français. Quand on sait 1 kilo de mil pilé, ça fait 1 franc, puis elle... Par famille, il faut en moyenne 25 kilos de mil de farine par jour. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, d'initiative, de courage, en plus de tout ce qu'elle faisait. Et ça, donc leur but, c'était de faire les papiers pour se constituer en groupement. Alors là, l'administration ne se gêne pas pour taxer un maximum, évidemment. Elle voulait ouvrir un compte au Crédit Agricole et à partir de là, demander un emprunt pour acheter un moulin à mil. C'était l'objectif numéro un qu'elle s'était fixé, c'est d'acheter un moulin à mil pour se décharger déjà de la tâche de pilage, ce qui représentait déjà 3-4 heures de travail en moins par jour. Et ça leur faisait une source de revenus aussi. Et avec cette source de revenus, bon, elles avaient d'autres idées qui concernent uniquement la survie. On ne parle même pas encore d'activités annexes ou d'artisanat. C'était donc essayer de remettre en état un ancien puits autour duquel elles auraient pu faire un jardin maraîcher pour avoir leurs légumes. Ensuite, c'était créer une case de santé pour les soins de santé primaires. À partir de là, elles pouvaient peut-être rêver d'une autre activité, plus proche justement de l'artisanat. Et moi, je les ai rencontrées à ce moment-là.
Ça veut dire du très très long terme, ça.
Oui, hein. Oui, oui. Oui, c'est du très long terme, mais comme elle me disait, de toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a pas envie que nos filles vivent cette vie-là, on a envie qu'elles aient un peu plus, un peu moins de fatigue, un peu plus d'activités agréables aussi.
Il y a une liaison avec la grande ville la plus proche, c'est Dakar.
Il y a une petite ville à 20 km qui s'appelle Mbourg. Alors là, il faut prendre la charrette, ça fait 15 km à peu près. Oui, alors la ville est plus loin. C'est à peu près 15 km de brousse en charrette jusqu'à la route goudronnée. Puis là, il faut prendre un petit car jusqu'à la ville.
Voilà, si j'en parle, c'est pour donner une dimension au niveau des transports et de ce qu'implique d'aller acheter ou faire quelque chose.
Ça peut me permettre de parler justement de comment on a travaillé ensemble. Où, bon, moi, je suis arrivée là, donc elles étaient en pleine activité, leur groupement fonctionnait, la deuxième fois où je suis repartie plus tôt, là, le groupement était constitué, elles étaient inscrites au registre du commerce, elles avaient leur compte en banque, et le banquier hésitait à leur octroyer un prêt parce qu'elles n'avaient pas de garantie financière. Et puis, ils se disaient que, bon, ils ne voyaient pas sur quelle base ils pouvaient leur faire confiance. Et quand je suis arrivée, elles m'ont dit, bon, ben, maintenant, tu vas nous aider. Et bon, de nouveau, ça me mettait un peu en porte-à-faux. Puis elles m'ont dit, mais la seule chose qu'on te demande, c'est d'être avec nous, nous accompagner dans les démarches, parce qu'on ne sait pas très bien se débrouiller. Et ça, si j'ai eu un apport là-bas, ça a été celui-là, c'est d'aller deux, trois fois avec elles. Et simplement, c'était assez marrant ce qui s'est passé, c'est qu'au début, les gens me parlaient à moi, convaincus que j'encadrais le groupe, comme on dit là-bas. Et je disais, non, moi, j'encadre rien du tout. Je suis là parce que j'avais envie de les rejoindre, mais la présidente, c'est elle, c'est à elle qu'il faut parler. Alors, il y avait un petit moment de flottement. Et au bout d'un moment, ils se mettaient à parler à la présidente. Et au bout d'un moment, ils se mettaient à parler en Wolof. Et là, pour moi, c'était bon. Et on a fait ça 3-4 fois. Et après, j'avais même plus besoin d'y aller. Elles ont pris confiance en elles. Et enfin, je disais ça pour dire, par rapport à votre question de tout à l'heure, qu'effectivement, quand on devait aller chercher un papier ou faire une démarche, ça nous prenait la journée. Parce que bon, il faut attendre la charrette. Alors des fois, on peut attendre 2 heures avant qu'il y ait une charrette dans le village. Une fois qu'on est sur la route goudronnée, il faut déjà attendre qu'il y ait un car qui passe, qu'il ne soit pas trop plein pour pouvoir nous prendre. Aller à l'endroit, souvent on doit attendre les gens. Même quand on avait rendez-vous, les gens n'étaient pas là, donc il fallait attendre. Puis après, la même chose dans l'autre sens. Donc en général, ça prenait une journée.
Il faut beaucoup de patience en Afrique.
Oui, mais... Bon, ça fait partie du rythme aussi. Hein. C'est vrai que ça, ici, on supporterait pas, c'est évident. Mais pris dans le rythme de là-bas, c'est vrai que bon, on s'y fait. Bon, c'est souvent embêtant, mais bon, ça fait partie du rythme de vie.
Tamba alunimbali maya ala jula zambuyo Touba kante, Fatia kante, Monson kante Yali zambuye bagadeo, alubi bunyabi jaliato Barinje nagaluto, fumini Safreya, ubeni tuma, umar beni bolu. Barini gami safreya, atigi taman sayalima. Safreya mbuluwa alunizu, ya bajaliha alunizu. Safreya ya kono be umalaluye.
Femme d'Afrique avec Claire Dufour qui a son expérience, qui ne prétend pas ni donner de leçons ni être une experte en la matière, mais qui a vécu dans un village au Sénégal et donc suffisamment longtemps pour avoir des impressions, pour avoir vu, entendu des choses et constaté. Alors on a un peu cheminé, c'était très difficile au départ et puis petit à petit donc il y a eu un prêt de concéder pour avoir ce moulin à mille et il est arrivé.
Voilà. Alors, en très résumé, c'est ce qui s'est passé, effectivement, où le banquier a fini par admettre de leur concéder le prêt. Aussi parce que je me suis engagée à dire qu'on allait tenter de vendre leur tisane, une tisane qu'elle cultive et une tisane qu'elle ramasse en brousse, par petite quantité. On a fait un peu des calculs. On a vu qu'il suffisait d'en envoyer assez peu, deux grands sacs, si vous voyez à quoi ressemblent des sacs de riz. Et bon, le banquier a eu l'air un peu surpris, mais je lui ai promis que ça se ferait et que c'était ça la garantie qu'on pouvait offrir. J'ai tenu ma parole, c'est-à-dire qu'il y a une amie qui est venue me voir, j'ai mis dans ses bagages deux grands sacs de tisane. Et un autre ami journaliste est venu me voir, j'ai fait la même chose. Et bon, ils ont joué le jeu de vendre ça. Bon, c'est vrai que Genève, c'est une ville où il y a un énorme brassage culturel. Donc, il y a souvent des soirées, des concerts, des fêtes. Ça permettait de d'écouler la tisane. Et avec ça, on a réussi à recevoir 800 000 francs CFA. Ce qui nous a complètement impressionnés quand on sait le prix du bissap. Enfin, c'est le bissap, dont la tisane dont je parle. En Afrique, ça nous faisait rire même de se dire, on avait l'impression d'avoir envoyé un produit de luxe là-bas, mais bon, ça nous a permis de retourner au Crédit Agricole et de verser cash une somme qui a permis de faire un plan de remboursement plus court, avec des traites plus légères, et on est allé chercher le moulin à Dakar. Alors ça a été un grand jour, évidemment, le jour où on a pu aller chercher ce moulin, et maintenant il est sur place, il fonctionne. Bien qu'elles étaient encore en train de rembourser, elles ont déjà pu dégager un petit bénéfice, elles ont fini la case de santé. Et donc c'est une affaire qui roule, et que je sois là ou que je ne sois pas là, de toute façon c'était leur mouvement, leur groupement, leur travail. Et moi je continue à vendre ma tisane à droite, à gauche, et ça me permet, bon là je suis rentrée il y a 7-8 mois, et à deux reprises j'ai pu envoyer une fois 1200, une fois 1500. Alors c'est pas grand chose, mais 150 000 francs CFA, ça fait une traite du moulin. Donc voilà, ça fait le petit mouvement qui vient d'ici, qui les encourage, qui leur donne, comme on est tous pareils, de savoir que d'autres ailleurs pensent à nous, sont là, ça encourage.
Archive. Vous êtes toujours à l'écoute de Archives sur Radio Saint-Afrique. On se retrouve avec Gilles pour parler des vieux formats de la radio. Il en sait beaucoup sur tout ce qui a été enregistré, évidemment, tout au long de ces années. On parle d'une émission qui a été enregistrée il y a 20 ans, là, en 1996. Et donc, après les femmes, c'est les enfants qui vont être mis à l'honneur dans cette troisième partie, Gilles.
Les enfants, malheureusement, qui vivent dans la rue, pour certains. Et c'est aussi la dénonciation des grosses ONG qui veulent tout truster, genre UNICEF ou Raoul Folro, qui arrivent avec leur gros 4x4, etc. Et là, c'est l'inverse. C'est les Africains, des Africains qui ont peut-être étudié en Europe et puis qui sont revenus au pays pour faire des choses et qui se prennent en main. Et voilà, c'est possible.
Donc pour eux, à l'époque, ça devait être meilleur, le feu d'artifice, quoi, le paradis, les ONG, elles arrivaient...
Voilà, avec de très très gros moyens, mais qui étaient friands des bonnes idées, mais qui les récupéraient et qui ne pouvaient pas imaginer que les Africains sur place puissent se prendre en main et faire le boulot à leur place.
Heureusement, ils vont rencontrer un peu de résistance.
Les gens qui sont pris par l'Afrique s'en remettent jamais.
Claire Dufour, psychologue, a rencontré l'Afrique la toute première fois au cours d'un voyage d'études qui rassemblait médecins et thérapeutes. Coup de cœur et coup de foudre, Claire Dufour porte sur l'Afrique un regard sans concession où se mêlent clairvoyance et émotion.
C'est une ambiance très très forte, entre les couleurs, la chaleur, les contacts humains, une ambiance comme ça, et simplement même la terre. La terre elle-même, quand on marche sur ce sol, je trouve, a une vibration très très forte.
Les chercheurs disent que c'est le berceau de l'humanité. Oui. Tout a démarré là, donc peut-être qu'on reconnaît quelque chose.
Ah oui, oui. On a l'impression d'aller aux sources. Ça, c'est vrai. On a l'impression d'aller aux sources à tous les niveaux. À tous les niveaux.
De formation, vous êtes psychologue au départ.
Oui.
Oui. Et donc, vous avez été confronté à des pratiques traditionnelles, peut-être un peu à la limite pour des scientifiques. Ou est-ce qu'il y avait des choses du style imposition des mains, magnétisation dans les cérémonies? C'est des choses qu'on voit assez fréquemment.
C'est-à-dire les cérémonies auxquelles on a participé. Bon, c'était des cérémonies de transe. Toutes ces pratiques, le Ndup notamment au Sénégal, qui utilisent la transe pour exorciser certaines maladies. On a participé à des séances de divination. C'est une grande cérémonie qui se fait annuellement, qui est très impressionnante. Et c'est là où chaque année, ils vont prédire les épidémies, les premières pluies. Et là, c'est un très grand rassemblement. C'est en pays Serer, qui sont réputés pour être des grands guérisseurs et des grands devins. Et là, il y a en plus une partie récréative qui nous a tous complètement impressionnés, où ils se montrent sous forme de jeu les pouvoirs qu'ils ont. Donc vous avez des choses du style creuser un trou dans le sable, mettre des braises. Nous, à 60 cm, on ne laissait même pas la main. Et quelqu'un plonge sa tête dans la braise, se fait recouvrir de sable et reste 3 minutes comme ça. Et quand il ressort, il n'a plus rien sur le visage. Il y a des trucs, quand je les raconte, on ne me croit pas en général. Je peux donner un autre exemple. Je sais qu'on ne me croit jamais quand je le dis. C'était une vieille femme qui s'affrontait, c'est un jeu, avec un vieux sorcier. Et elle lui a dit, je vais t'envoyer un essaim d'abeilles. Et on a vu un essaim d'abeilles. Et elle lui a répondu en rigolant, je vais brûler ton essaim d'abeilles. Et on a vu une flamme se précipiter sur l'essaim d'abeilles. Alors après tous, on s'est demandé, est-ce qu'on a halluciné? Est-ce qu'on nous a fait boire quelque chose?
Voilà,
on a de la peine à le croire. Bon, quand on l'a vécu, on se dit, j'ai ça en moi, j'ai vécu ça. Je sais quand on le raconte, la plupart du temps, on ne veut pas nous croire. Mais il faut le vivre pour savoir qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Et puis, etc., je pourrais multiplier les exemples de démonstrations qui se font les uns les autres. C'est une manière de se faire respecter aussi, d'ajuster chaque année qui a acquis du pouvoir et qui sont les maîtres en la matière. Alors voilà, ça, c'était mon premier séjour au Sénégal.
Ça, c'est le côté magique.
Complètement. Nous, on dit magique, mais pour eux, c'est absolument pas magique. C'est simplement, comme ils disent, ils sont en communion avec les éléments, le feu, l'air, l'eau, les esprits, puisque tout Africain est rattaché au monde des esprits. Et pour eux, c'est une science. C'est simplement qu'ils ont cette connaissance-là, qu'ils savent la manipuler et l'utiliser. Et c'est nous qui disons que c'est magique. Nous, ça nous paraît extraordinaire. Pour eux, c'est du domaine du commun et de l'ordinaire.
Alors pour quelqu'un qui a une formation universitaire assez cartésienne, je suppose, etc., bon, c'est un choc, c'est une claque. Et quand on vit en France, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, on y retourne, faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, quoi, à ce moment-là? Est-ce qu'on a envie de, pas de les aider, mais on a envie peut-être de participer, de faire quelque chose pour ce continent?
Moi, ça a été... ça a été de me dire, je peux plus faire sans ça. Ça a été un choc, une rencontre où j'en suis revenue complètement. Eux là-bas, ils disent maraboutée, imprégnée. Et sachant que je pourrais plus faire sans. Alors bon, j'ai eu aussi parallèlement la chance, vivant à Genève, de connaître l'Afrique à travers différents Africains qui ont qui souffre justement de l'image qu'on a de l'Afrique, soit très folklorique, hein, c'est les danses, les chants, les rires, ou une image très négative de cette pauvre Afrique qu'il faut assister, qu'il faut aider, qu'on a colonisée, et qui essaye de faire valoir une autre Afrique. Donc j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gens comme ça, qui m'ont évité de tomber dans ces pièges-là, justement de dire j'ai envie d'aider, ou bien au contraire je me mets dans le folklore. Ils n'ont pas été tendres avec moi d'ailleurs, parce que comme toute européenne, occidentale, j'avais ces schémas-là dans ma tête, et ils m'ont aidé à me les sortir un peu de la tête. Donc c'était plutôt, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'être là-bas, j'ai envie de poursuivre cette rencontre, et que ce soit une rencontre. Essayer que ce soit à pied d'égalité, et essayer de ne pas tomber dans un rapport d'assistanat ou de coopération, bien que je ne veux pas être manichéenne en disant tout ça c'est à rejeter, c'est une longue histoire, c'est... Ils doivent faire avec maintenant, eux aussi, mais d'essayer de ne pas tomber dans les plus gros travers, en tout cas. Donc c'était un désir de poursuivre cette rencontre, et elle se poursuit depuis bientôt 10 ans maintenant.
10 ans ?
Oui. Oui.
Alors, ouais. Alors les autres voyages, ça a été d'aller vivre dans les villages, de rencontrer vraiment les gens,
oui,
au quotidien.
Oui, c'est-à-dire à partir de là, bon, l'ami médecin, c'est un Béninois qui a fait un travail extraordinaire au Sénégal, se rendant compte que les guérisseurs bon, qui avaient été interdits sous la colonisation avaient de la peine à revaloriser leur travail. Et devant une autre tendance, qui est maintenant celle de venir piller la pharmacopée africaine, il s'est dit qu'il fallait qu'il organise les guérisseurs. Donc il a créé une grande organisation qui regroupe 350 guérisseurs, et il défend la pharmacopée, la médecine traditionnelle africaine. Donc à travers lui, c'est lui en fait qui m'a fait rencontrer des gens, et une fois qu'on rencontre quelqu'un, il nous amène ailleurs et un peu plus loin et encore ailleurs. Donc ça s'est toujours fait comme ça pour moi, ce qui était très agréable, parce que c'est vrai qu'en tant que touriste, c'est difficile. On est dans un rapport qui est douloureux, ce qui est pas très intéressant finalement.
Mais on se demande ce qu'on fait là-bas oui, au bout d'un moment.
Oui,
quoi.
Oui, oui. C'est... Les rapports ont été tellement abîmés entre Européens et Africains que c'est vrai, quand on y va en touriste, maintenant on est mal aimé quand même. On est très mal aimé. Il y a une espèce de revanche qu'ils ont envie de prendre, et on se fait plumer, on se fait... c'est bon.
Il faut payer.
Voilà, il faut payer, c'est ça. Dans tous les sens du terme, il faut payer. Ouais.
En tant que femme, ça doit poser quand même peut-être un problème, parce que dans l'Afrique traditionnelle, la femme a un rôle bien particulier qui est... Bon, il y a la polygamie, il y a un rôle de, je dirais, de servante quelque part, qui est bien installée en Afrique, qui est peut-être en train de changer, mais est-ce que vous l'avez ressenti, ça ?
Bah, ça, je crois que ça fait partie des images qui sont véhiculées sur l'Afrique et sur la femme africaine. Moi, ce que j'en sais par mes amies africaines et parce que j'y ai vécu, c'est que la femme a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on veut bien dire. D'abord, c'est elle le pilier, c'est elle la maîtresse de maison, c'est elle le centre du foyer. Et c'est vrai qu'elle laisse à l'homme son panache, mais c'est quand même elle qui participe à 100% à toutes les décisions. Un homme prend rarement une décision sans en avoir parlé avec sa femme. Et s'il va un peu trop loin, elle sait aller voir son marabout. Elles ont des tas de ressources beaucoup plus occultes qu'elles affichent pas. C'est vrai que ce qu'elles affichent, c'est une certaine soumission. Mais en réalité, elles sont pas si soumises que ça. Ça, il faut pas se laisser tromper par l'apparence. Et ça change maintenant, enfin c'est d'autant plus vrai maintenant que comme les femmes s'organisent et que c'est elles maintenant qui génèrent des activités créatrices d'emplois et d'argent, elles sont d'autant plus renforcées dans leur autorité. Mais elles ont une sacrée autorité, les femmes. Il n'y a qu'à les voir faire leurs tontines, enfin ce qu'on appelle les tontines, je vais expliquer brièvement. C'est un système où les femmes se mettent en groupe et chacune à son tour verse à l'une d'entre elles une somme d'argent. Donc ça veut dire que chacune à leur tour a une somme assez importante pour faire un achat ou un investissement. Et dans ces moments-là, c'est des moments qu'elles se donnent à fond pour elles. D'ailleurs, les enfants sont éliminés et ça dure 2 heures en général. Et là, on voit qu'elles sont puissantes. Quand on les voit danser, elles font une sorte de psychodrame où elles se mettent en boîte, elles miment des tas de choses qui se passent dans le village, les querelles. Et les hommes, ils en prennent pour leur grade là aussi. Et là, on voit qu'elles sont puissantes, en fait, qu'elles ont une autorité.
Et on va écouter tout de suite une femme, Sabré Soumano. Thank you. Claire Dufour, l'Afrique bouge énormément, mais vous me disiez qu'il y a une sorte de naissance d'une élite africaine qui pense différemment. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une époque où, après la colonisation, des petits chefs s'en sont mis un peu plein les poches, il y a eu beaucoup de corruption, il y a toujours beaucoup de corruption et de choses comme ça. Mais maintenant, il y a des gens qui ont peut-être eu accès à certaines connaissances et qui ont envie que ça change différemment.
Oui, tout à l'heure, je vous disais que j'avais eu la chance de découvrir l'Afrique à travers des gens comme ça. Et une de ces personnes dont je vais parler, c'est un Zaïrois qui s'appelle Mutombo Kanyana, qui est quelqu'un qui a fait l'Institut des hautes études à Genève. Donc, ça le destinait à une carrière diplomatique ou à un poste dans son gouvernement. Et qui, a priori, c'est ce qu'il pensait faire. Et qui a été tellement écœuré de voir comment se comportaient les diplomates à Genève, a décidé de faire un choix différent, dans le sens de dire « je ne veux pas jouer ce jeu-là ». J'ai la chance d'avoir acquis toute une formation, des connaissances, une conscience surtout, qui me permet de faire différemment. Et il a fait le choix il fait des petits boulots de veilleur de nuit dans des institutions. Et il a créé une association culturelle avec un journal qui s'appelle « Regard africain ». Et il draine comme ça, c'est une sorte de pôle permanent à Genève. Et il draine plein d'informations de journalistes, de politologues, enfin de toutes sortes de gens qui sont sur le terrain en Afrique et qui lui envoient régulièrement l'information. L'autre chose qu'il a créé aussi, c'est des séminaires de connaissance de l'Afrique et des Africains. Et il donne partout en France, en Suisse, en Belgique. Il est de plus en plus demandé maintenant. Ça fait 15 ans qu'il fait ça et ça commence à porter ses fruits. Et où il donne ses séminaires justement pour qu'on essaye ici d'apprendre un peu mieux ce que c'est que l'Afrique. Parce que c'est vrai qu'on est plein d'idées reçues, qu'on connaît très mal l'Afrique et que par cette méconnaissance, on perpétue cette espèce de rapport d'assistanat avec l'Afrique. On veut pas voir ou on peut pas voir parce qu'on nous donne pas l'information qui nous permettrait de savoir qu'en Afrique, il y a un potentiel intellectuel de jeunesse, de vitalité, d'imagination qui pourrait avoir fait décoller l'Afrique depuis très longtemps, mais qui a cet éternel même rapport de colonisation, finalement, qui arrange tout le monde, y compris ces fameuses élites très corrompues d'Afrique, qui fait que ça ne bouge pas, et que les gens qui essayent de faire les choses différemment ne sont pas aidés. Alors il faut des gens très courageux comme eux, qui sacrifient finalement leur carrière, qui gagnent peu d'argent, et qui essayent de donner une autre image de cette Afrique. Bon, lui a choisi de le faire à travers une association culturelle, où il organise beaucoup de spectacles, de concerts, et il se décarcasse pour faire venir des films, pour montrer qu'il y a un cinéma africain qui est magnifique, et qui est tout à fait à la hauteur de ce qu'on fait ailleurs. Voilà, c'est toute cette démarche-là de gens qui, utilisant leurs compétences, sont prêts à sacrifier leur carrière pour donner cette autre image de l'Afrique. Et ça, c'est vrai que de plus en plus, bon, c'est des gens qui ont retenu la leçon de Sankara, de Lumumba à l'époque, de Mandela, qui sont un peu les fils de ces gens-là et qui veulent que l'Afrique décolle, que l'Afrique, et qu'on ait surtout une autre image de l'Afrique. Et c'est ce que j'ai appris avec ces gens-là, c'est que, bon, c'est vrai que l'Afrique est pleine de mots, mais notre société aussi, je crois, est pleine de mots différents entre le chômage, la corruption. Bon, on a des déséquilibres énormes sur tous les continents, pratiquement. Et ce dont ils souffrent le plus, c'est pas tellement que l'Afrique soit dans cet état-là, mais c'est que partout ailleurs, on perpétue l'image d'une Afrique qui, de toute façon, n'est capable de rien. Et. Bon, c'est des gens pour lesquels j'ai énormément d'admiration, parce que je sais pas, même nous on voit quand on travaille en milieu associatif, on est d'accord de sacrifier un certain nombre de choses jusqu'à un certain point. Et bon, là c'est un exemple de personnes comme ça qui essayent autrement, qui donnent autre chose aussi de l'Afrique.
Qui risquent aussi sûrement beaucoup, parce que s'ils faisaient ça dans leur pays, ils seraient peut-être dangereux, oui. Mal vus et emprisonnés, torturés, etc.
Bah lui, c'est ce qui s'est passé, parce que bon, une fois qu'il avait fini ses études, il espérait retourner au Zaïre. Et là, bon, c'était encore, bien sûr, c'était Mobutu. Et en tant que fils de diplomate lui-même, il avait le choix entre accepter un poste dans un ministère qu'on lui offrait ou la prison. Bon, il a dit « j'ai pas une âme de martyr ». Il a préféré rentrer en Europe en se disant « depuis l'Europe, je peux faire quelque chose pour l'Afrique ». Et là, il l'a fait sous cette forme-là.
Alors, avec votre expérience, notamment au Sénégal, est-ce que vous y croyez? Vous pensez c'est possible, ça va se faire, c'est en bonne voie, ou ça reste encore un petit peu utopique?
Je répondrai de manière plus générale, pas seulement par rapport à l'Afrique. Je crois que d'une manière générale, il y aurait plutôt de quoi être pessimiste, que ce soit sur le développement de notre société ou de la société africaine ou des rapports Nord-Sud. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui tendent à nous rendre plutôt pessimistes. Bon, à partir de là, on peut choisir de voir le verre plein, à moitié plein, et de se dire, bon, ceux qui essayent justement de promouvoir autre chose, d'encourager d'autres mouvements, est-ce qu'un jour ils auront le dessus? Ça, c'est peut-être plus de l'ordre de l'utopie, c'est vrai.
C'était un témoignage de Claire Dufour, psychologue, suite à un voyage d'études au Sénégal.
Dans cette émission, le reportage rapporté du Sénégal par Claire Dufour, les voix de Gilles Margeran, Colette Bidet et Claire Dufour, musique de Maître Gazonga, enregistrements originaux et derrière moi Manu Dibango, un reportage diffusé sur Radio Saint-Afrique en 1996, c'était l'émission Archive.
Intéressé à l'histoire.